France Culture. Les nuits de France Culture.
Ceux qui naviguent sur la mer Caspienne voient avec étonnement un fruit merveilleux, nommé Borametz. Il est élevé sur une haute tige. Il a quatre pieds, une toison, deux cornes de laine, deux yeux et une queue. Les paysans de Moscovie croient que c'est un animal vivant, qui dort tout le jour sur sa tige, et qui en descend la nuit, pour brouter l'herbe qui est sèche et déracinée autour de lui. Sa chair est semblable à l'ambroisie. Son sang est rouge et préférable au plus excellent vin. Et si ce fruit pouvait marcher et demander du secours contre les loups qui viennent le dévorer, on pourrait dire qu'il est un véritable agneau et que toutes les collines de ces pays sont couvertes de moutons en vie. Voilà l'étrange récit que nous livre Mac Encrae Hibernus, un pseudonyme derrière lequel se cache sans doute Jacques Trente, médecin de la faculté de Paris. Il décrit ce qu'on appelle le Borametz ou le Borametz, une plante ou une créature fantastique dont la première mention est faite en 1557 par l'érudit italien Julius César Scaligère. Cette plante agneau est sans doute l'une des créatures les plus étranges et surprenantes de notre bestiaire fantastique et fut évoquée par de nombreux naturalistes et scientifiques. Ce troisième de cinq épisodes de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Coget, pour le cabinet de curiosité, revient sur le destin des créatures les plus singulières de ce bestiaire, comme le dahu ou encore le marsupilami. On y retrouve l'ethnologue Jean-Loïc Lequellec, le chasseur de dahu Gérard Couderque et le systématicien Pierre Darlu. Une émission réalisée par Malika Mescache est diffusée pour la première fois le 25 février 1998.
Je filmais un travelling d'une région inexplorée lorsqu'une bête jaune à longue queue passa devant moi en quelques bonds gracieux. Immédiatement, je mis en action mon téléobjectif et le braquai sur le nouvel animal. Oh, merveille ! J'avais devant les yeux un chef-d'œuvre de la nature. Je l'identifiais sans peine au moment où, gracieuse, elle sortit de l'ombre. Un prodigieux hasard me mettait en présence de Mademoiselle Marsupilami. Et en quelques minutes, j'accumulais une foule d'observations intéressantes. Un peu plus petite que le mâle, la Marsupilami a la queue plus courte, mais elle la porte avec infiniment plus de grâce. Chose étrange et qui semble peu logique, elle marche sur la pointe des pieds à tout petits pas. Phénomène plus remarquable encore, la marsupilami est à ma connaissance le seul animal qui ait la notion de la toilette décorative. Autre remarque étonnante, si le marsupilami fait rarement entendre sa voix, la marsupilami, elle, a un chant, ou plutôt un babil, abondant et gentil, qui veut dire qu'elle est contente.
Les animaux fantastiques, aujourd'hui, une imagination débridée. Avec le marsupilami, créature particulièrement sympathique imaginée au cours des années 50 par le dessinateur André Franquin, nous quittons le monde des dragons, de la licorne et autres griffons pour entrer dans celui d'êtres tout aussi fantastiques, mais inventés avant tout pour le divertissement. Il ne faudrait pas croire pour autant que nous quittons le savant pour le populaire, le sérieux pour le facétieux, tant les concepts ici se mélangent et se contaminent les uns les autres. Ainsi, le marsupilami, animal vedette de la bande dessinée, se retrouve-t-il intégré à une publication scientifique en anglais, qui doit plus au canular qu'à la recherche, mais qui vise pourtant à décrire par le menu un ordre de mammifères inconnus avec des ingrédients que n'auraient pas renié en leur temps les inventeurs du basilic, du dragon ou de la sirène. sirènes s'ils en avaient eu connaissance. Simplement, les temps ont changé, la farce et la plaisanterie ont remplacé le conte et la mythologie, comme en témoigne cette curieuse histoire de Borametz, être charnière par excellence, puisque non content d'appartenir à la fois au monde végétal et au monde animal, il est aussi être de folklore et objet de supercherie.
Aux environs de la mer Caspie, il est certaines semences comme la graine de melon, de laquelle, plantée en terre, naît une plante qui ressemble à un agneau et devient haute de 2 pieds environ et s'appelle, en langue du pays, Borametz, qui veut autant à dire petit agneau. Ce n'est pas sans cause que ce plante animal a tel nom, car il a une tête, des yeux, des oreilles et toute autre partie comme un agneau nouvellement né. Outre plus, il a une peau fort déliée, dont plusieurs en ce pays-là se servent pour doublure à leur accoutrement de fête. Ce plante animal avait du sang et point de chair. Mais au lieu de chair, il a une certaine matière qui ressemble à la chair des écrevisses. Même des ongles qui ne sont pas des cornes comme celles d'un agneau, mais faites de certains brins et poils d'herbe et disposées comme le pied fourchu de l'agneau vif. C'est une plante douce à merveille et fort appétée des loups et autres animaux vivant de proie. Claude Duret, Histoire des plantes émerveillables, 1605, d'après le témoignage de Sigismond Libert.
Jean-Louis Lequellec, ethnologue.
Alors le Borametz, c'est un zoophyte, ce qu'on a appelé longtemps une plante animale, c'est-à-dire ces espèces d'êtres hybrides qui apparaissent dans des récits de voyageurs, comme Pierre de Mandeville par exemple, dont on n'est en fait finalement pas trop sûr qu'il raconte ce qu'il a vu, ce qu'on lui a raconté, et même parfois on n'est pas vraiment sûr qu'il a vraiment voyagé. En tout cas, ces récits ont été repris régulièrement dans de nombreux récits de voyage qui se répètent un petit peu les autres et qui attestent de l'existence d'un agneau végétal, un animal, enfin quelque chose qui ressemble à un animal, qui ressemble particulièrement à un agneau. Mais cet agneau a la particularité d'être monté sur une espèce de tronc qui arrive à son nombril et qui est planté dans le sol. Et il semble se nourrir par ce tronc. En même temps, c'est un tronc un peu flexible. Il peut brouter dans la limite de flexibilité du tronc en question. Et puis, il ne peut pas se déplacer. Mais les textes qui sont publiés sont illustrés d'images qui montrent vraiment un agneau, ça ressemble tout à fait à un agneau. Et il a ses 4 pattes qui ne touchent pas le sol, parce que de son nombril, donc par un tronc qui l'empêche de se déplacer et qui le fixe au sol. C'est en Orient, ça fait partie de toutes ces curiosités, de toutes ces choses notées ou rapportées par les voyageurs en Orient, un peu dans une tradition du devisement du monde de Marco Polo, où tous ces voyageurs, à leur retour ou supposé retour, devisent sur les merveilles qu'ils ont rencontrées. Donc ça fait partie des merveilles, mais des merveilles qui sont présentées comme tout à fait réelles.
Alors c'est un zoophyte, c'est-à-dire un animal végétal, mais pour les gens qui le décrivent, qui racontent dans leurs écrits comment ils l'ont vu, c'est plus une plante ou plus un animal? Parce que la plante, elle existe, elle est connue.
Alors oui, mais on s'est aperçu plus tard qu'effectivement il y avait une plante qui pouvait répondre à ce signalement. Au moment où les voyageurs signalent l'existence du Borametz ou Barometz, il est présenté comme un animal très particulier et un animal qui est à mi-chemin entre l'animal et la plante, mais il n'est pas fait allusion au départ au fait que ce serait une simple plante, une plante un peu bizarre. Non, c'est un animal étonnant, une merveille.
On le présente.
Alors, certains voyageurs en ont rapporté. Alors là, c'est là que ça devient un peu plus crédible, d'une certaine manière. Des voyageurs ont rapporté des Borametz qui sont actuellement dans des musées et qui ont été présentés comme la preuve de l'existence de ce zoophyte. Mais on a fini par se rendre compte qu'en réalité, ce qu'ils ont rapporté, du coup, c'était vraiment une plante qui n'avait rien à voir avec un animal.
C'est-à-dire que lorsqu'au XVIIe, quand par exemple Hans Sloane, qui est un botaniste bien connu, en Angleterre, le présente à la Royal Society, la plus personne n'est dupe.
Là, ça faisait déjà un petit moment que quelques doutes avaient été émis, parce que sans avoir vu l'animal et sans avoir été sur place pour faire d'enquête, des zoologistes ont commencé à se poser des questions sur la circulation sanguine de cet animal, par exemple, qui paraissait un petit peu bizarre. Comment ça pourrait se faire que le sang passe dans un tronc puis dans des racines, enfin ça paraissait un petit peu curieux, donc il y a des doutes qui ont commencé à émerger. Et puis quand on a vu finalement l'objet rapporté par les voyageurs, on a vu que c'était une variété de fougères et qu'en fait il y avait une espèce de bricolage qui était fait dans les régions, dans le biotope supposé de cet animal, où les populations coupaient ces fougères de manière à les bricoler un petit peu, de manière à ce qu'elles ressemblent à un animal, mais en même temps c'est une matière végétale.
À partir de quand on n'est plus dupe ?
Au 18e, on est de plus en plus sceptique. Et puis quand on consulte les encyclopédies, les grandes encyclopédies qui traitent du monde animal, on voit que à partir du 17e, les gens disent « Bon, d'aucuns pensent qu'il s'agirait d'une plante animale. » Mais en réalité, on sait que c'est une plante. On lui donne un nom latin, c'est terminé. On n'y croit plus. Du moins dans le monde savant.
Ceux qui voyagent sur la mer Caspienne voient avec étonnement un fruit merveilleux nommé Borametz. Il est élevé sur une haute tige. Il a quatre pieds, une toison, deux cornes de laine, deux yeux et une queue. Les paysans de Moscovie croient que c'est un animal vivant qui dort tout le jour sur sa tige et qui en descend la nuit pour brouter l'herbe qui est sèche et déracinée autour de lui. Sa chair est semblable à l'ambroisie. Son sang est rouge et préférable au plus excellent vin. Et si ce fruit pouvait marcher et demander du secours contre les loups qui viennent le dévorer, on pourrait dire qu'il est un véritable agneau et que toutes les collines de ce pays sont couvertes de moutons en vie. Démétrius de la Croix, Le mariage des fleurs, 1798.
Jean-Louis Lequelec, le texte de Démétrius qu'on vient d'entendre fait bien la part des choses entre la réalité objective et le folklore qui peut être attaché à telle ou telle espèce. Mais le baromètre, ça a quand même la vie dure, puisqu'un peu plus de 200 ans après ce texte, on continue à en fabriquer à Formose, par exemple, et on en vend aux touristes.
Oui, bah oui, c'est une... Peut-être une preuve de ce qu'il ne suffit pas de démontrer l'inexistence d'un animal mythique pour qu'il arrête d'exister. Le Borametz continue à exister, au moins dans l'imaginaire, et puis aussi dans les souvenirs que ramènent les touristes, puisqu'il y a encore des touristes qui ramènent de Formose des Borametz qui témoignent encore de l'existence de cet être mythique.
Et le Dahu ?
Le Dahu n'est pas un très très bel animal, en fait. Il est même un peu effrayant. En fait, il tient à la fois du... Non, d'abord, c'est un mammifère qui tient à la fois du chamois et du bouquetin des Alpes. On dirait qu'il s'agirait peut-être d'un croisement ancien et contre nature, évidemment.
Gérard Couder, chasseur de Dahu.
Tu aurais donné cette bête qui se présente sous une forme relativement classique pour ce genre de bestiole. Il est poilu à l'avant et ras à l'arrière. Et sa principale caractéristique, évidemment, tout le monde le sait, c'est qu'il a d'un côté des pattes plus courtes de l'autre. Alors on s'est longtemps demandé quelle était l'origine de cette caractéristique. En fait, on sait que c'est son mode de vie et son habitat qui lui impose cette transformation au fil des milliers d'années pendant lesquelles il a existé. Le Dahu vit sur les flancs de montagne, et exclusivement sur les flancs de montagne. Il est évident qu'ayant les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, ça lui permet de marcher sur n'importe quel type de déclivité avec beaucoup d'adresse et d'agilité.
Mais il y a plusieurs types de Dahu.
Alors évidemment, il y a plusieurs types, parce que ne serait-ce que lorsqu'on se rend compte que les pattes peuvent être plus courtes d'un côté ou de l'autre, immédiatement on parle de Dahu d'extrogyre ou d'extragyre ou sénestrogyre, etc. Mais sur le terrain, en fait, on préfère des termes beaucoup plus simples qui collent à la réalité de la montagne. On parle de Dahu du Bac et le Dahu d'Adrette. Il s'agit tout simplement des flancs de la montagne exposés ou non au soleil. Donc voilà deux variétés essentielles. Alors, d'aucuns prétendent qu'il existe une troisième variété qui s'appellerait, ou que l'on qualifierait de Dahu des Crêtes. Mais là, il s'agit effectivement d'une légende et c'est mal connaître le mode de vie du Dahu, qui en fait, à certains moments de son existence, et des moments relativement précis d'ailleurs, est amené, pour des raisons de survie, à passer les crêtes et à rejoindre une autre vallée, en quelque sorte, pour pouvoir en fait se diriger dans l'autre sens. Sinon, le Dahu serait condamné à circuler toujours de la même manière dans une vallée, finalement en faire le tour, ce qui serait relativement difficile, puisqu'il arrive quand il arrive en basse altitude, évidemment, il ne peut plus rien faire. Donc, à certains moments de son existence, il franchit les crêtes et peut progresser dans l'autre sens, et cela après une espèce d'opération assez périlleuse, d'ailleurs, que l'on a appelée la conversion, et qui, pour lui, consiste tout simplement à basculer dans l'autre sens et à passer sur l'autre crête. Donc, c'est lorsqu'on a aperçu ce genre d'opération que l'on a pu croire et prétendre qu'il existait un dahu des crêtes qui aurait les pattes égales de chacun de ces deux côtés. Mais c'est absolument faux. De mon point de vue, il n'existe que deux dahus, patte gauche plus courte ou patte droite plus courte.
Et le dahu des plaines, parce qu'on le rencontre en Berry au XIXe siècle.
Alors on le rencontre, oui. Moi je suis assez peu partisan de ces interprétations-là. Je pense que le dahu est avant tout un animal de montagne. Peut-être a-t-il été beaucoup trop chassé dans l'Antiquité pour qu'on le retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, je signale au passage que la chasse au dahu traditionnelle à laquelle on invite les touristes et les jeunes gens, ici ou là en montagne, lorsqu'ils vont en vacances, n'est que la réminiscence, en quelque sorte, ou la répétition plaisante, amusante, de véritables chasses qui avaient lieu dans le temps jadis et qui étaient pour les paysans et les populations locales, en fait, une nécessité. Il fallait chasser le dahu parce que cet animal était effrayant, pouvait porter malheur dans certains cas. On a raconté également que le dahu pouvait s'introduire dans les bergeries et à ce moment-là, copulant avec les brebis, produire des animaux monstrueux. Donc le dahu était chassé. Et ces chasses ont fait que la bête a été exterminée petit à petit. Mais il reste le rituel qui est loin d'être insignifiant parce que d'abord c'est un rappel du passé. Et ensuite, je crois qu'on peut prétendre qu'il s'agit d'une sorte de travail initiatique, en quelque sorte. Lorsqu'un touriste arrive en montagne, un jeune arrive en montagne, il se trouve devant des gens qui connaissent des modes de vie, qui connaissent des paysages, qui connaissent une faune, et eux ne connaissent pas. On oppose toujours ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et la chasse au dahu est un rituel initiatique qui permet tout d'un coup à toute une population d'estivants, une population citadine, apprendre vraiment la réalité de la montagne et, à l'occasion d'une nuit de chasse, à dépasser leur propre terreur et peut-être franchir une frontière qui est celle de la connaissance de la montagne.
Et pourquoi ce mot « dahu » ?
Alors, il y a plusieurs interprétations, c'est un peu complexe. Certains prétendent que ce mot vient de « taillot », un mot de vannerie qui nous vient du XIIe siècle, je crois, ou peut-être un petit peu plus tard. Et par différentes opérations linguistiques, ce mot « taillot » se serait transformé en « daillot »,« dahu », selon les prononciations locales. Ce qu'il faut retenir de cette première interprétation, c'est qu'elle a un rapport avec la chasse, donc ce n'est pas insignifiant. La deuxième interprétation, thèse pour laquelle je penche personnellement, ça serait une adaptation de cette double expression qui dit « ahu » et « adia ». En fait, tirer d'un côté et tirer de l'autre. U signifiant aller à droite pour les chartiers, tout le monde connaît ce langage-là, et dia aller à gauche. Donc cette expression ahu et adia aurait été employée par les chasseurs de dahu, les vrais, d'une certaine époque, pour désigner le dahu en se moquant de lui. Et on aurait inversé. Donc c'est-à-dire que de ahu à adia, on serait arrivé de dia à ahu. Et puis, par apocope successives, allitérations diverses, etc., les parlers régionaux faisant leur office également, cette expression s'est simplifiée et est devenue « dahu ». C'est-à-dire, on désignait le dahu en se moquant de lui. Et en même temps, peut-être était-ce une façon de désigner le diable sans le nommer réellement, puisque cette inversion rend compte peut-être de cette espèce de diabolisation.
Si l'on continue, ici ou là, à chasser le dahu, il est d'autres espèces impossibles à chasser, puisque totalement disparues aujourd'hui, Pierre Darlu. Je pense en particulier à ces fameux rhinogrades, découverts au début des années 60 sur l'archipel des Ayayay.
Bien, la découverte des rhinogrades est surtout le fait d'un livre, publié dans les années 62, par un dénommé Stumke, et traduit par Robert Veil, qui était alors directeur de la station océanographique d'Arcachon. Et donc, cet ouvrage relate les notes trouvées par un dénommé Stumke, qui décrit un ensemble d'espèces appartenant au même genre, les rhinogrades, espèces qui ont toutes disparu au cours d'un cataclysme nucléaire, probablement dans l'océan Pacifique. Et ce genre a une particularité, c'est que, comme son nom l'indique, il s'agit de rhinogrades. Nous sommes des plantigrades parce que nous marchons sur la plante des pieds. Les rhinogrades, donc, se déplacent sur leur nez. Alors, tous n'ont pas cette faculté, en particulier une espèce particulière qui est l'Archirhinos ekeli, qui est très primitif en ce sens qu'il continue à se déplacer sur ses pattes, mais il utilise son nez comme point d'appui une fois qu'il a avalé quelques blattes ou quelques insectes. Et probablement, c'est la raison pour laquelle il est primitif. Ça indique également une parenté avec les insectivores. Donc l'évolution ensuite a été telle que ce nez a pris une ampleur très importante, au point de parfois se diversifier en espèces ayant quatre nez, donc des polyrhines, ou au contraire d'autres qui sont restées monorhines. Donc il y a une variété, un polymorphisme absolument extraordinaire de ce genre.
Constituant un ordre particulier de mammifères, les nasins sont définis par le caractère commun que leur nez est développé de manière particulière. Il peut être unique ou multiple. Cette deuxième condition constitue une exception unique dans la série des vertébrés. Or, les recherches anatomiques ont montré que chez les espèces polyrhines, l'ébauche nasale se clive dès les stades embryonnaires précoces, de telle sorte que les diverses ébauches nasales résultant d'un tel clivage se développent chacune selon le mode olorine, c'est-à-dire aboutissent chacune à former un nez complet. Le nasarium servant chez tous les rhinogrades, à l'exception du genre ancestral Archirhinus, d'organe de locomotion, les autres extrémités ont perdu cette fonction. Corrélativement, les membres postérieurs sont en général plus ou moins réduits, tandis que les membres antérieurs sont transformés en organes préhensiles saisissant les aliments ou en petits appendices servant au nettoyage du corps. Chez la plupart des nasins, le pelage consiste en une toison assez uniforme, ne permettant pas de faire la distinction entre jarre et bourg. Ceci ne résulte pas seulement des conditions climatiques de l'archipel, mais doit être considéré comme un caractère primitif. Cette interprétation est étayée par la régularité des groupements pileux. La plupart des rhinogrades se nourrissent d'insectes, mais il existe aussi parmi eux des herbivores, surtout des frugivores et un genre prédateur. Enfin, ils comprennent aussi des formes très spécialisées telles que celles qui habitent les eaux douces et se nourrissent de plancton, et aussi des formes fouisseuses parmi lesquelles se trouvent les vertébrés les plus petits que nous connaissons. Professeur Harald Stumke, Anatomie et biologie des rhinogrades, 1962.
Parmi les espèces remarquables, il y a évidemment Nasobema, qui a la particularité d'avoir une queue extrêmement longue. Donc c'est un animal qui fait à peu près un mètre de hauteur et une queue qui est sans ossature, mais qui fonctionne de manière pneumatique, en ce sens que les sphinctères retiennent les gaz intestinaux et les relâchent au moment où Nasobema a besoin d'attraper des fruits, parce que ces animaux sont frugivores, et donc ils lâchent les gaz, on pourrait dire, et attrapent donc les fruits. Ça leur sert également à se défendre. Il y a une espèce aussi assez particulière, c'est le Tyrannonasus imperator, qui a la particularité de manger Nasobema. Donc c'est la seule espèce qui soit carnassière. Et elle a donc une queue également très importante, qui ressemble un petit peu à celle de Nasobema, qui pourrait rappeler celle du marsupilami, évidemment, et qui a à son extrémité une sorte d'aiguille relâchant du venin. Donc tous ces animaux, j'en donne deux exemples, mais il y en a 138 exactement, qui sont tous décrits dans le livre dont je vous ai parlé, avec énormément de détails sur la reproduction, le mode de locomotion, l'environnement, le mode d'alimentation, etc.
Nasobema lyricum est le mieux connu de tous les polyrhines, et de ce fait mérite une description un peu plus complète. Appartenant aux tétrarhinides, il porte, sur sa tête courte et grosse, quatre nez, tous pareils et assez longs, sur lesquels il se déplace. L'absence de squelette nasal est fonctionnellement compensée par des corps érectiles, dont la forte turgescence peut donner au nez une raideur considérable. En outre, ils sont parcourus par des canalicules trachéens arborescents, dont le débit pneumatique est réglé par les ampoules coanales, prolongeant loin en arrière le voile du palais dont elle représente une différenciation, de sorte que la turgescence nasale est assurée par deux systèmes. Le système hydraulique des corps caverneux érectiles, qui détermine durant la marche une rigidité permanente, et un système pneumatique, qui donne à la marche et aux autres mouvements une certaine élasticité et qui réduit les risques de traumatisme en cas de collision avec les objets durs. Outre les ampoules coanales, interviennent les ampoules pneumonasales, qui résultent du développement extrêmement important des cavités nasales accessoires. Il en existe trois de chaque côté du corps, et ce sont elles qui répartissent la pression pneumatique naissant dans les ampoules coanales. Tout ce système est innervé par le trijumeau, tandis que le nerf facial innerve principalement les muscles périnasaux, longitudinaux et circulaires. Comme tous les polyrhines, le nasobème est entièrement dépourvu d'os nasal, dont on ne retrouve même pas l'ébauche embryonnaire. Professeur Harald Stumke, Anatomie et biologie des rhinogrades, 1962.
Évidemment, tous ces animaux ont disparu. Et l'idée que nous avons eue, c'est de monter une expédition pour essayer de retrouver les traces de ces animaux.
Oui, parce que je crois que vous avez retrouvé des fragments donc, d'ADN mitochondrial, d'ARN ribosomial. Et vous avez étudié un peu leur séquençage.
Voilà. Donc, à l'issue d'une expédition océanographique dans ces îles polynésiennes, il a été possible de retrouver parfaitement bien conservés des tissus de ces espèces, en particulier Hemonctator sorbens, c'est-à-dire le rhinograde reniflant et chuintant, et puis évidemment Archérinos qui nous intéressait spécialement parce qu'il était primitif, et évidemment Nasobema. Donc nous avons pu récolter de l'ADN mitochondrial, de l'ARN ribosomal, et amplifier ces ADN et les comparer aux espèces actuelles. Donc les informations que nous avons déduites de ces comparaisons sont extrêmement intéressantes, puisque l'on a pu montrer qu'il y avait une sorte de convergence entre la morphologie du nez de ces rhinogrades, d'une part, et la forme de l'ARN ribosomal. Il faut savoir que l'ARN ribosomal forme des sortes de boucles, de fleurs, de tiges chez toutes les espèces. Et il se trouve que la forme, là, dans ces espèces-là, la forme de l'ARN ribosomal ressemble très proche à la forme, à la morphologie de ces rhinogrades. Il a pu aussi être montré, en faisant des reconstructions en cladistique, qu'il y avait certainement eu des transferts de gènes entre différents mammifères comme les rongeurs d'un côté, donc Mus musculus,
la souris,
bien sûr, et puis les proboscidiens, en particulier les éléphants ou les mammouths. D'ailleurs, il y a un rhinograde qui est, ressemble un petit peu à ce que l'on pourrait appeler les mammouths. Donc on a pu montrer que, du point de vue phylogénétique, ces rhinogrades étaient une sorte de mélange de issus de sortes de transferts de gènes entre ces différentes espèces.
Alors Pierre Darlu, vous avez reconstitué donc les arbres phylétiques pour voir un peu comment ces familles ont évolué, mais vous avez aussi introduit le marsupilami dans une publication très sérieuse, puisque ça a été soutenu à la Hynix Society, qui est une société de biologie très connue dans le monde. Alors on a donc retrouvé aussi de l'ADN de marsupilami.
Donc on a pu effectivement retrouver de l'ADN de marsupilami, mais là je n'indiquerai pas mes sources, parce que le matériel est très très précieux, et je ne voudrais pas que des collègues viennent marcher sur mes plates-bandes de marsupilami. Mais comme je vous l'ai indiqué, le nasobema a une queue qui rappelle de très près celle du marsupilami. Et effectivement, la comparaison des séquences d'ADN mitochondriaux ont montré très bien la proximité entre ces différentes espèces. Donc l'avenir, évidemment, c'est une tentative de reconstruction de ces animaux extraordinaires à partir de l'ADN. Après tout, ça s'est fait avec d'autres espèces. Pourquoi pas avec celle-là.
Les animaux fantastiques, une imagination débridée, avec aujourd'hui la participation de Jean-Loïc Lequellec, ethnologue, Gérard Couder, chasseur de Dahu, et Pierre Darlu, systématicien. Texte dit par Catherine Laborde, le cabinet de curiosité, Sylvain Barassetti, Bernard Charron, Malika Mesgache, Jacques Cogé.
C'était le troisième de cinq épisodes de la série « Les animaux fantastiques » par Jacques Cogé, pour le cabinet de curiosité. Première diffusion le 25 février 1998 sur France Culture. À suivre.